Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12-30 avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. Deux heures d'infos, vous le savez, de débats, mais aussi d'opinions. Votre opinion sur l'actualité, c'est votre émission. Vous nous appelez au 3210 à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. À la une de votre journal, l'espoir prudent après le cauchemar sur le bassin d'Arcachon. Le vent d'ouest et la chute des températures viendront-ils aider les pompiers après une soirée apocalyptique hier, 2000 hectares brûlés en quelques heures. Les 5 campings du Pila, dont celui des Flots Bleus, ont été ravagés. On va tenter de joindre Nathan Bocard sur place dans un instant. L'autre feu à Landiras, dans les terres, est lui aussi toujours hors de contrôle. Le pyromane présumé est en garde à vue. Dans ce journal également, autour des Alsaciens, notamment d'avoir très chaud aujourd'hui, Strasbourg connaît une journée record. Bonjour Claire Delorme.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
C'est cette vague de chaleur, de canicule qui se décale progressivement.
Exactement, 70 départements sont encore en alerte canicule pour cet après-midi, dont l'est du pays. Là où les plus fortes chaleurs sont à prévoir, c'est de la vallée du Rhône en remontant vers le quart nord-est entre 38 et 40 degrés. Ailleurs, c'est un petit peu plus respirable, surtout près de la Bretagne grâce aux orages. Mais attention, une dégradation orageuse arrive par le sud-ouest en fin de soirée. Des orages à surveiller.
Merci beaucoup Claire Delorme. La chanteuse Dani est morte la nuit dernière. Elle avait 77 ans et vous entendrez une pépite RTL en exclusivité. La dernière chanson inédite qu'elle a enregistrée. J'avais raison, c'est le titre, on va l'entendre tout à l'heure. Et puis un mot du Tour de France, la 16e étape, le Tour arrive dans les Pyrénées, le match retour entre Vingegaard et Pogacar est attendu. La question du jour, incendie et chaleur, trouvez-vous la classe politique trop silencieuse? Eh bien vous avez répondu oui à 72%, non à 20% et vous êtes 7% à ne pas se prononcer.
RTL Midi.
Le vent d'ouest viendra-t-il aider les pompiers de Gironde? Depuis une semaine, chaque jour à la teste de bûche a été pire que le précédent. Et hier, les habitants ont décrit une soirée apocalyptique sous la canicule, la fumée, les cendres, l'odeur qui prend à la gorge. 2000 hectares, je vous le disais, sont partis en fumée en quelques heures seulement. Et comme un symbole, les 5 premiers campings qui avaient été évacués en tout début de semaine dernière ont été ravagés à 90%. Nathan Bocard, on est avec vous en direct, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends très bien, oui.
Nathan, vous avez pu vous rendre précisément là, dans la forêt, à quelques mètres de ces campings détruits.
Effectivement, et quand on s'approche de ces campings, la première chose qui frappe, c'est l'odeur de brûlé qui prend à la gorge, mais aussi l'odeur de gaz, puisqu'ici des bonbonnes de gaz ont explosé et continuent de fuir. Et puis quand on rentre dans les campings, ce que j'ai pu faire, eh bien c'est un paysage de désolation, tout est noir, il ne reste que des murs debout, ce qui contraste énormément avec le paysage de la dune en fond qui est presque intact. Et puis on trouve partout des petits objets qui font la vie du camping, habituellement des voiturettes de golf, des petits vélos, des bouteilles, mais tous calcinés. C'est un paysage qui est très triste, des détails qui fendent le cœur. Et puis quand on rentre au Flot Bleu, le fameux camping des Flots Bleus, on pourrait croire en arrivant que le camping est intact puisque la façade est préservée, mais en s'avançant un petit peu, il ne reste plus rien. Même les mobilhomes, les cabanons sont aplatis, se sont effondrés sur eux-mêmes. Alors on dirait aujourd'hui qu'il ne pourrait plus jamais y avoir de vacances en fait dans ces campings. Aujourd'hui, les discussions commencent avec la Chambre du commerce pour que les campings de la dune du Pila se relèvent et revivent de ce drame.
Nathan, encore une fois, vous êtes à quelques mètres de là où s'est passé l'incendie, donc on a du mal parfois à vous entendre, la liaison est difficile, mais on comprend parfaitement ce que vous voyez. On a parlé d'espoir prudent maintenant, Nathan, est-ce qu'effectivement la chute des températures, le vent d'ouest plus humide, redonne un peu espoir aux pompiers?
Alors oui, dans une certaine mesure, ce sont des critères favorables, on va dire, qui vont...
On a eu une coupure de réseau avec Nathan Bocard qui était à quelques mètres donc de ces 5 campings qui ont brûlé hier. Effectivement, espoir très prudent des pompiers qui avec le vent espèrent que la situation va s'améliorer, mais les heures qui viennent seront à nouveau décisives. Sur l'autre front en Gironde, l'incendie est toujours lui hors de contrôle également à Landiras. L'enquête progresse, la piste criminelle on le sait est privilégiée depuis le départ et un suspect est en garde à vue depuis hier, Guillaume Chiez.
Oui, cet homme a été interpellé hier par les gendarmes qui ont également perquisitionné son domicile. Selon nos informations, ce suspect est déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des tentatives de départ d'incendie. Depuis mardi dernier, les enquêteurs ont la quasi-certitude que le feu de Landiras est d'origine criminelle. Deux témoins qui circulaient sur une route départementale ont aperçu une voiture quitter en trombe le foyer de l'incendie. Désormais, les enquêteurs vont comparer les prélèvements effectués au domicile du suspect aux éléments qu'ils ont pu recueillir sur le départ du feu. Ils vont également tenter de vérifier si cet homme peut être relié à d'autres incendies de la région. Pour l'heure, il ne s'explique pas sur les faits. Il encourt une peine maximale de 15 ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Guillaume Chiez. Vous nous appelez à partir de 13h au 3210 sur ces incendies en Gironde. On a entendu dans l'émission d'hier votre choc, votre émotion face à ces paysages de désolation. Est-ce que vous reprenez un peu espoir justement avec la chute des températures? On rappelle que 20 000 personnes en tout ont été évacuées. Si vous faites partie de ces personnes évacuées, appelez-nous, on attend vos appels au 3210. C'est donc un début d'été catastrophique sur le front des incendies qui touche aussi d'ailleurs des zones plutôt épargnées d'habitude. En Bretagne, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, un incendie est en cours là encore. 1400 hectares ont brûlé alors que la région a été frappée hier par une canicule exceptionnelle. C'est du jamais vu, un feu d'une telle ampleur là-bas. 500 personnes de la zone ont dû être évacuées et parmi elles, Annick qui habite à Bottmeur dans le secteur.
En une demi-heure, il y avait des flammes de je ne sais pas combien de mètres de haut. On avait des fumées qui étaient très très épaisses. À 22h, la gendarmerie venait donner ordre d'évacuer immédiatement. Et là, la montagne était en feu. Rouge de feu épouvantable. Je n'avais jamais vu ça. Et il y avait le PC de gendarmerie qui était là et qui nous ont fait évacuer sur une commune à côté qui a le plaisir de nous accueillir. Et je peux vous dire que chez nous, c'est pas la joie et on pleure nos bons Monts d'Arrée. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Donc, nos maisons ne sont pas impactées. Par contre, chez nous, on est dans la nuit, si vous voulez, tellement il y a de fumée. C'est un véritable drame pour la faune, pour la flore. C'est terrible ce qui nous arrive.
Voilà le témoignage d'Annick qui habite donc dans le Finistère, juste à côté de l'incendie. Elle répondait à Gauthier Delon-Bugard. En raison de la sécheresse, précisément, et du risque incendie, tous les massifs forestiers sont interdits d'accès à partir de ce mardi dans les Bouches-du-Rhône et jusqu'au lundi 25 juillet. Et puis les balades en forêt sont également interdites aujourd'hui dans le département de l'Oise, au nord de l'Île-de-France. L'espoir, donc, c'est qu'avec la baisse des températures, la situation s'améliore. Le frais, effectivement, est arrivé par l'ouest, mais une grande partie du territoire reste en alerte orange canicule. Et notamment à Strasbourg, Yannick Collin, on est en train de vivre une journée record là-bas.
Eh oui, déjà 31 degrés, on devrait attendre 38. Donc à Strasbourg, le parc de l'Orangerie est devenu un oasis de fraîcheur ce matin pour les mamans comme Amandine avec son petit Auguste, 5 mois.
J'ai prévu 2 biberons, donc il va déjà prendre son 2e biberon. C'est pour ça qu'il va pas falloir trop tarder à rentrer non plus. Sinon, on va être à sec. Tout notre appartement est exposé sud. Donc si on veut avoir un peu de fraîcheur, la technique, c'est tout est fermé. Il fait nuit noire à partir de 7h du matin. Puis faire des petits bains la journée pour l'occuper aussi.
Promenade matinale et gourde format XXL pour Françoise avec son chien Lulu qui souffre lui aussi de la chaleur.
On se balade tôt le matin quand on peut, quand on ne travaille pas, comme aujourd'hui. Hein Lulu ? Ça fait 4 mois et demi qu'il est avec nous, donc c'est la première fois qu'il y a des grosses chaleurs pour lui. Donc on s'équipe, sa gourde qu'il a déjà bu à moitié, mais quand il fait très chaud là il a bu la moitié d'un seul coup.
Mais dans le parc, il y a aussi les incorrigibles, les joggeurs au soleil et Anne-France, 76 ans, en pleine séance de marche nordique qu'il a fallu sermonner un peu.
Il commence à faire chaud, mais bon, tous les jours, je fais un tour qui fait à peu près 3 quarts d'heure. Je préfère essayer de rester en forme.
Vous êtes pâtie ce matin, je laisse tomber, il va faire trop chaud.
C'est ce que mon mari m'a suggéré, mais comme j'ai un peu une bonne caboche, j'ai dit non, mais je vais, promis, je vais y aller.
Ça semble effectivement plus prudent de rentrer, de reporter un peu la marche nordique. Merci Yannick Collin pour votre reportage à Strasbourg. Bon courage d'ailleurs à tous les Strasbourgeois. Vous serez peut-être bientôt soulagés. Et pour vous remonter le moral, écoutez Virginie de Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Elle aussi, elle profite ce matin enfin d'un peu de fraîcheur.
Ça fait du bien d'avoir un peu de vent parce que nous, le restaurant où on travaille, c'est que de l'extérieur. On n'a pas d'intérieur du tout. Donc c'est vrai que ça a été un peu dur, mais on se sent mieux. Là, ce matin, On est tous de bonne humeur. Tout le monde est content. Tout le monde dit le temps est agréable aujourd'hui. Comparé à hier, on a quand même perdu 15 degrés. Ça fait du bien, mais il fait chaud quand même. Mais il y a un petit vent qui fait beaucoup de bien.
Et le soulagement de Virginie, donc dans le Pays Basque, au micro de François-Xavier Lambert. Et appelez-nous d'ailleurs si vous aussi vous profitez enfin d'un peu de fraîcheur. On attend vos appels à partir de 13h au 32-10. La canicule, sachez-le, est exceptionnelle également au Royaume-Uni. La température pourrait dépasser cet après-midi le seuil des 40 degrés. En l'occurrence, c'est du jamais vu chez nos voisins. Plusieurs compagnies ferroviaires ont appelé la population à ne pas voyager. Le réseau ferré britannique n'étant pas conçu pour de telles chaleurs.
RTL Midi.
Il est midi 40 sur RTL. L'État lance l'opération pour renationaliser EDF. Il va racheter les parts des petits actionnaires autour de 12 euros. L'affaire pourrait coûter 13 milliards en tout. L'objectif pour l'État, c'est d'avoir les mains libres, notamment pour gérer les investissements dans les futurs EPR et également gérer les politiques tarifaires dans le contexte de flambée des coûts. C'est un rendez-vous incontournable de l'été, les colonies de vacances. Mais la France manque, figurez-vous, d'animateurs. Il en manque 5000 pour cet été. Les séjours ont parfois dû être annulés ou écourtés. Les candidats qui sont moins nombreux disent que le métier n'est pas assez valorisé. Dans la commune de Billage-Saint-Va, on a décidé donc de les chouchouter. Reportage de Franck Hanson.
Réveillant musique à la base de loisirs avant le grand jeu. Ici, les enfants ne s'ennuient pas.
Il y a plein d'activités, alors c'est bien.
Je suis toujours avec la même animatrice, c'est Raphaël, et elle est super. Ouais.
Déjà, on s'amuse pendant les vacances et puisqu'il fait beau, c'est agréable.
Les animateurs, ils sont sympas ?
Oui, ils sont gentils et drôles.
Mais des fois, ils râlent, mais sinon, ça va.
Souvent des surprises.
Allez-y ! À Biège-Saint-Va, les rémunérations des animateurs sont plus attractives. 17% d'augmentation avec des primes et quelques avantages. Un choix de la municipalité, se félicite Karine Combe. La dynamique responsable des accueils jeunesse.
Nous, aucun souci pour cette année, toujours le même dynamisme d'ailleurs. Depuis 2 ans, les salaires ont augmenté, des animateurs, des stagiaires. La communauté de communes qui maintenant aussi paye le BAFA et eux, en échange, restent 3 ans dans la commune. Ça aide aussi.
Élisés en Mère Noël ou en super-héros, ces jeunes moniteurs se sentent ainsi valorisés.
Ça nous soutient tous parce qu'on est quand même des étudiants, ça nous aide à financer notre année.
La première année, on était moins payés et là, il y a eu une augmentation, donc ça fait plaisir aussi. On doit garder tous les enfants. On a une grosse responsabilité et c'est pas mal.
Et ces animations profitent aussi à d'autres enfants des villages voisins.
Reportage de Franck Hanson. Et puis appelez-nous au 3210. On voulait en parler dans les auditeurs en la parole. Après 14h, on a envie d'entendre vos souvenirs de colo. Vous pouvez nous appeler également précisément si vous êtes animateur, si vous l'étiez, si vous avez abandonné le métier justement parce qu'il devenait trop dur. On pourra en parler avec vous à partir de 14h. Et puis pour finir, hommage ce midi sur RTL à la chanteuse Dani qui est morte cette nuit. Elle avait 77 ans. Icône des nuits parisiennes dans les années 70. Une voix inimitable. Et vous allez entendre un document exceptionnel, exclusif. C'est la dernière chanson qu'a enregistrée Dani. Cette chanson qui s'appelle « J'avais raison ». Écoutez.
Demain la veille, je partirai dans un sommeil inexploré. T'avances toute ma reconnaissance. Tous les merci de circonstances. Tous mes regrets aussi. Mais à la fin de la saison, sur le chemin de ma maison, Marc-Essen.
Voilà la dernière chanson qu'a enregistrée Dani. Chanson inédite, vous la découvrez ce midi sur RTL. C'est le dernier enregistrement. Cette chanson sortira donc à titre posthume après sa mort cette nuit. Elle avait 77 ans. Vous pouvez venir lui rendre hommage à Dani à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Vous nous appelez au 3210. On parlera également musique d'ailleurs avec les Rolling Stones qui eux sont en pleine forme et qui jouent ce soir à Lyon. Concert exceptionnel pour leur tournée des 60 ans. On écoutera évidemment les Stones. On sera avec Eric Jean-Jean également qui a vécu des aventures incroyable avec Mick Jagger et Keith Richards qui ont fêté, rendez-vous compte, leurs 79 ans. On va faire une pause sur RTL. Dans un instant, on va continuer à parler de la situation sur le bassin d'Arcachon. On sera avec Bruno Lafont, maire de Biganos dans le pays de Buch. C'est l'une des 10 localités qui bordent le bassin. Comment voit-il la situation évoluer ? On lui pose la question dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Olivier Bois.
Il fait un peu moins chaud qu'hier, mais quand on est au contact du feu, il fait aussi chaud. Hein. Alors, je pense que c'est les 20 premières minutes d'un poulet dans un four, quoi. Ah, il fait chaud, quoi. Mais on a les habitants qui viennent avec la solidarité nous donner beaucoup de bouteilles d'eau fraîche, beaucoup de bananes comme ça. Donc on se fait des petites pauses régulières si jamais on a besoin. Et puis après on repart. Et puis voilà. Comment on tient? Ben, il faut bien, c'est notre boulot, c'est notre métier.
Et voilà, résumé, la guerre contre le feu que mènent les pompiers. Ici, c'était le caporal-chef Nico. On accueille l'invité de ce RTL Midi, Bruno Lafont. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Biganos, donc dans le pays de Buch. Hein, vous bordez le bassin d'Arcachon. On entend à quel point les pompiers luttent d'arrache-pied depuis une semaine maintenant. Vous n'hésitez pas à parler de guerre contre ces flammes incontrôlables depuis une semaine.
Oui, parce que c'est un combat qui était au départ illégal. Les conditions n'étaient pas les mêmes que nous avons connues jusqu'à présent. Dès que les feux sont partis, eh bien pour les arrêter, ça devient très difficile parce qu'ils prennent des proportions considérables. La végétation est anormalement sèche en cette période. Les températures étaient plus qu'élevées puisqu'on a eu jusqu'à 44 degrés hier. Donc, si vous voulez, et le vent qui tourne sans arrêt puisqu'on ne veut pas savoir, on le voit bien sur le feu de l'Andiras, c'est une vraie pieuvre puisqu'il y a plusieurs têtes de feu. Donc c'est la guerre et le spectacle est désolant.
On va aborder avec vous peut-être l'espoir que le changement de météo apporte quelque chose. Mais d'abord la soirée d'hier, on entend des témoignages absolument glaçants. On était à l'instant à côté de ces campings qui ont brûlé. Le feu pour le coup a ravagé 2000 hectares en quelques heures sur les 6500 brûlés. Ça veut dire que le feu a complètement pris une ampleur incroyable hier soir.
Et vous savez, si on le compare à celui de l'Andiras de la veille, on avait fait en 1h30, on avait 2000 hectares également la veille à l'Andiras. Donc vous voyez, ça s'est reproduit à la teste. Et vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces cas-là. Hein. Vous savez, pour protéger le lotissement des Miquelots, il y avait 100 fourgons pompe-tonne. Vous savez, ces camions qui sont équipés en ville pour aller au feu. Donc il y avait 100 camions, plus que certains départements sont équipés en véhicules pour protéger les habitations. C'est donc comme une stratégie de guerre qu'il faut mener. Et là, aujourd'hui, nous menons des travaux forestiers qui sont proportionnés à la dimension du feu, où nous faisons des pistes de plus de 100 mètres de large sur des kilomètres et des kilomètres pour arrêter de lui donner à manger à ce feu, pour que le feu s'arrête sur les limites que nous avons fixées.
Alors sur la journée d'aujourd'hui, on a du mal à parler d'espoir, on parle d'espoir prudent peut-être avec cette météo. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous l'entendez vous aussi de la part des pompiers? On espère que le vent humide venu de l'ouest, la baisse des températures, fasse inverser la tendance quoi.
On l'espère. Vous savez, en matière de feux de forêt, il faut être très humble. Et aujourd'hui, on revient à des situations dites normales, c'est-à-dire à des conditions que nous connaissons normalement. Donc on espère que cette journée va leur apporter quelques satisfactions. On le souhaite tous, que ce soit les populations, mais que ce soit nous-mêmes, les forestiers, parce que vraiment, et les élus, nous, on ne peut pas continuer à vivre cet enfer. Donc il faut que ça s'arrête. Mais pour ça, il faut que nous mettions toutes les chances de notre côté.
Est-ce que ce vent tourbillonnant, il se lève cet après-midi ou il est plus calme qu'hier?
Il est plus calme qu'hier, mais on n'est pas à l'abri parce qu'hier, on croyait qu'on aurait des fortes rafales en fin de journée. On les a eues en milieu de journée et c'est ce qui a créé sur la tête les dégâts que ça a occasionnés parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse arriver de cette façon. Parce que les conditions météo n'étaient pas celles qui étaient prévues au départ.
On est frappé par le nombre de personnes évacuées, 20 000 personnes évacuées en tout sur le département. Est-ce que vous en accueillez dans votre commune? Est-ce que vous les voyez, ces personnes qui ont dû partir en urgence?
Alors nous avons des salles qui sont prêtes, qui sont à disposition. On a donné des informations à la sous-préfecture. S'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bien accueillis. On a la population qui va absolument participer. On a un élan de générosité terrible vis-à-vis des pompiers des Ardennes qui assurent la sécurité pour notre commune et notre secteur. Vous imaginez, ce sont des pompiers des Ardennes. Donc nous, on est prêts. On est prêts à les accueillir. On a une salle de tennis de table qui est en très bonne condition, qui est neuve. Donc nous, on peut faire cette solidarité pour l'instant. On ne vous l'a pas encore demandé.
Une dernière question. Vous êtes également, en plus de vos fonctions de maire de Biganos sur le bassin, vous êtes président de la DFCI, la Défense de la Forêt Française contre les incendies. Est-ce qu'il faudra tirer des conséquences de ces dramatiques incendies qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous commencez d'ailleurs à travailler là-dessus?
Oui, on y travaillait auparavant, mais ce que je dis pour résumer, c'est que on ne pourra plus considérer la prévention et la lutte active des feux de forêt comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et il faut que les Françaises et les Françaises comprennent bien que notre forêt, que ça soit du nord de la France, au sud de la France, de l'est à l'ouest, est fragile par rapport au risque feu de forêt. Et il faut que cela rentre dans les consciences. Et il faut qu'on fasse un travail d'éducation. S'il faut de répression, mais il faut qu'on change notre modèle. Ce n'est plus celui que nous avons connu jusqu'à présent.
Merci beaucoup. Merci Bruno Lafond d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes maire de Biganos, donc directement concerné par cet incendie, toujours hors de contrôle. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. On va faire une pause dans un instant. Le Tour de France, les Pyrénées, le match retour entre Vingegaard et Pogacar. Attendu, on est avec Christophe Paco. À tout de suite.
RTL Midi. Christophe Paco, RTL, chez vous.
Bonjour Christophe Paco.
Bonjour Olivier. Alors, bonjour à tous.
16e étape du Tour, la première des trois étapes pyrénéennes. Aujourd'hui, c'est entre Carcassonne et Foix. La course est partie d'ailleurs à 12h40. On attend le match retour Vingegaard-Pogacar.
Oui Olivier, on va se régaler. Rencontre justement avec un sacré combatif, ancien maillot jaune, trois fois vainqueur d'étape sur la grande boucle, Sylvain Chavanel. Votre avis dans les rues de Carcassonne sur le duel au sommet, le coup de cœur de Laurent Jalabert, le point étape avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Et rencontre avec un duo complice et impatient de découvrir l'ambiance du Tour, Arnaud et Pierre du groupe Bon Entendeur.
RTL, chez vous, Christophe Paco.
Bonjour, c'est Bernard Hinault, et vous écoutez Bon Entendeur.
Salut, je m'appelle Christophe Paco, et j'écoute Bon Entendeur, c'est ça qu'il faut dire ?
Ouais, exactement, voilà, c'est ça.
Arnaud et Pierre, salut à vous.
Salut.
Vous allez faire la route avec Skoda, c'est bien, c'est une sorte d'équipage, avec une voix qu'on aime bien, nous c'est celle de Bernard Hinault, ça c'est incroyable cette association.
Et oui, on a eu la chance de le rencontrer il y a un mois pour faire une interview, on a déjeuné avec lui, et c'était juste incroyable, et du coup on a mis ça en musique comme ce qu'on fait dans notre projet, et vous allez avoir l'occasion de l'écouter sur le Tour de France du coup. Moi j'en parlais à mon père qui suit le Tour de France depuis des années, et il était hyper étonné, il a dit « Ah bon, mais Bernard Hinault quand même !» Donc ouais, on est très contents.
Vous connaissez son surnom, le nombre de victoires dans le Tour de France, ou je vous piège ou je piège pas, non ?
Bah, le blaireau, on a bossé quand même, on a bossé. Et le nombre de victoires ?
4 ou
4 ?
Toujours la première idée.
Eh ben, 5.
Ouais. T'as eu un souffleur ?
On a eu un souffleur qui s'est trompé.
C'est quoi pour vous le Tour de France ? C'est quoi ? C'est une image ? J'ai parlé de papa, grand-papa, c'est quoi ?
Ben oui, et puis c'est la France en fait. C'est la France des régions et de nos belles régions. Et nous, avec Bon Entendeur, on a la chance de faire pas mal de concerts, beaucoup en France. Et ben, on se rend compte que la France est belle partout et le Tour de France le montre aussi d'une autre manière. Quoi. On est hyper contents d'être là, franchement. C'est la première fois pour tous les deux.
Depuis ce matin avec Arnaud, on est comme des gosses. On s'est levé à 6h30, on a fait un petit tour de vélo.
Vraiment ?
Et oui, absolument. On a fait quoi ? 13 km.
On a fait 13 km avec Andy Schleck.
Et donc voilà, c'est comme ça que la journée a commencé. Et là, il y a plein d'autres activités. La journée va être longue, mais va être incroyable. Et honnêtement, on a l'impression on est comme des enfants avec Arnaud, surexcités. On a trop hâte.
On a récupéré les goodies, le bob, les lunettes, les bonbons.
On a récupéré les goodies et surtout, on est dans les voitures dans le Tour, dans les Skoda qui suivent le Tour de France. Et donc, on sera voilà, en plein milieu du truc. Donc, je pense que voilà, c'est donné à très peu de personnes et on se sent très chanceux.
Bonne journée, bon entendeur.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
Et je vais laisser la fin à Bernard Hinault parce que généralement quand on roule, il faut rouler en équipage, c'est ça hein ?
Exactement.
Oui, oui.
Est-ce que le plus grand champion peut gagner avec un mauvais équipage ?
C'est possible de le faire, mais qui va le faire qu'une seule fois.
Tour de France 2022. RTL chez vous.
RTL chez vous, mais quel bonheur de retrouver un coureur qu'on a tant admiré, Sylvain Chavanel. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Ah oui, on admire le maillot jaune, les victoires sur le Tour de France, il y en a trois, le maillot de champion de France, la combativité, j'arrête là ?
Oui, bah forcément, 18 Tours de France, j'ai connu pas mal de choses sur cette épreuve. J'ai vécu énormément d'émotions, j'ai pu aller chercher toutes ces émotions-là par différents trophées.
Aujourd'hui, Sylvain Chavanel, vous êtes toujours autant reconnu, on va sur le village départ, quel est votre rôle ?
Bah, mon rôle, je suis ambassadeur pour ASO, donc pour l'organisateur, et mon rôle, c'est d'aller voir les partenaires, de saluer, être dans le relationnel, donc la relation publique, de partager l'expérience que j'ai pu avoir sur ces différents Tours de France.
Et aujourd'hui, il y a donc deux questions, c'est qui va gagner le Tour et pourquoi un Français ne gagne pas, c'est ça ?
Non, il y a beaucoup de questions sur les Tours de France que j'ai participé. Ouais. Puis après, les questions qui reviennent régulièrement, c'est est-ce que Pogacar va renverser Vingegaard d'ici la fin ? Personnellement, moi j'ai du mal à y croire.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas autant régalé en tant que joueur du Tour, on est d'accord ?
Oui, bah après, moi j'ai vu des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir, donc un maillot jaune faire des échappées en solitaire. Je parle bien sûr du coureur belge Wout van Aert. Après, forcément, on cherche la victoire française parce que depuis 1999, on a des victoires françaises sur le Tour de France. La plus belle carte, ça serait Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot, ça fait deux fois qu'il essaye et deux fois qu'il est un peu court. Et avec Romain Bardet, forcément, il y a le podium. Mais aussi derrière Romain Bardet, on a des coureurs comme Gaudu, on a coureurs comme Madouas. Dans les 20 premiers, il y a quand même pas mal de Français.
Tu peux me permettre, parce qu'on sait que dans le cyclisme, tout le monde a son petit surnom. Et le vôtre est magnifique.
Ouais. Alors lequel? Parce que j'en ai eu plusieurs.
Ah ben Mimosa.
Alors Mimosa, c'était plus son début de carrière. Après, quand je suis allé chez les Belges, on m'a surnommé la machine, parce qu'une machine, c'est inépuisable.
Merci la machine, merci pour le Mimosa aujourd'hui. Merci Sylvain Chavanel. Bonne route dans les Pyrénées.
Merci à vous.
RTL, chez vous.
Trois jours de suspense à venir dans les Pyrénées. Pogacar, le tenant du titre, va-t-il reprendre à Vingegaard sa jaune tunique de leader? Nicolas Georgerot est allé à votre rencontre dans les rues de Carcassonne.
Pogacar, il a déjà gagné deux fois, alors autant que ça change un peu.
Il semblerait qu'il ait des possibilités peut-être aujourd'hui, mais l'autre, j'ai l'impression qu'il va se crocher à son maillot jaune, donc ça risque d'être sportif.
Moi, je pense que le maillot jaune actuel restera maillot jaune jusqu'au bout.
RTL, chez vous.
RTL chez vous, avec nos amis, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Et c'est Christophe Béard. Bonjour Christophe.
Salut Christophe.
Alors on parle beaucoup de la bataille, de la première victoire française, mais tout le monde fait le Tour de France, même les derniers.
Exactement, hier on a rencontré Anthony Turgis. Alors Anthony Turgis, coureur très intéressant de Total Energy, et puis qui a eu des grands malheurs en début de tour, qui est tombé deux fois, et qui a, comme il le dit lui-même, il a traîné sa misère. Il y a les champions devant qui souffrent, et il y a ces anonymes que la douleur escorte parfois. Et lui, il nous a raconté à quel point, pendant quelques étapes, il était largué, comme si le peloton ne voulait pas de moi. À chaque accélération, il perdait des places et il s'est retrouvé souffrant en se demandant pourquoi il était là et en disant je tiens pas pour moi mais pour mes copains, parce que au foot, quand un gars va pas bien, il est remplacé. Nous, si je m'en vais, c'est les copains qui perdent. Comme il a été lanterne rouge pendant plusieurs jours, le public l'a presque encouragé. Et ça rappelle un petit peu, il nous disait, le film Le Vélo de Gilles Lambert.
Ah oui.
Benoît Poelvoorde devient célèbre parce qu'il est dernier. Et il disait à un moment pour rire, j'avais pas envie que le public fasse un décompte à l'arrivée. Mais en même temps, j'étais aussi encouragé pour ça. Le vélo, c'est pas le bonheur de devant, c'est aussi la souffrance de derrière. Et c'est important de le rappeler.
Ouais, je comprends, c'est pas simple le vélo. On va le voir avec Laurent Jalabert dans quelques instants. Christophe Bérard, du Parisien aujourd'hui en France, ça mérite des applaudissements ici.
Tour de France 2022.
RTL, chez vous.
Finalement aujourd'hui, mon coup de cœur, il est pour Laurent Jalabert. C'est dur le vélo, Laurent. Qu'est-ce que vous avez fait hier?
Oh, c'est super dur le vélo. Hier, j'ai eu la bonne idée pour le jour de repos d'aller me fatiguer un tout petit peu. Et je vais aller reconnaître les deux petits cols là, de l'étape de Foix. Le port de l'air, c'est le mur de Péguerre. Très, très mauvaise idée. Non, je suis content de l'avoir fait. Hein. Mais qu'est-ce que c'est dur le vélo. On oublie vite hein, comment c'est difficile. C'est vrai, quand on voit les autres pédaler, quand on voit les champions, à l'allure qu'ils montent, avec parfois même le sourire, on se dit, bon, ça doit pas être si compliqué. Mais quand on y met les roues, c'est une autre histoire. Hein. Dans le port de l'air, c'est le mur de Péguerre. Si Pogacar veut renverser le tour, c'est le bon endroit pour y aller. Hein. Franchement, là, il y a de la pente. Et c'est vraiment très, 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 très difficile.
Mais très.
Mais très, très.
Ce soir, dans le club, Jalabert,
on se trouve à 18h30.
Ouais, jusqu'à 19h. 32-10, 3-2-1-0. Toutes vos questions, Laurent Jalabert. Bonne journée.
À tout à l'heure.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
À tout à l'heure, messieurs. Il mouille le maillot, Laurent Jalabert. Il fait les étapes avant les coureurs. Visiblement, c'est donc très dur. On l'a bien compris.